On m'a demandé, Manu m'a demandé de faire une introduction sur l'épître de Jacques. Alors, dans un élan de joie, parce que j'étais heureux de vous retrouver, j'ai répondu positivement. Et puis, quand j'ai vu le nombre de commentaires qui existaient sur l'épître de Jacques, je me suis dit, oulala, ça va être épique et dangereux. Vous le savez, je pense, que l'épître de Jacques est dans le monde chrétien l'épître, je dirais, le plus méconnu. C'est une épître très très méconnue. C'est une épître qui est, j'hésiterai pas à le dire, négligée. À ma connaissance, je peux me tromper, mais à ma connaissance, il n'existe que 4 commentaires de l'épître de Jacques, dont 3 sont aujourd'hui épuisés, et les éditeurs n'ont pas ressenti le besoin de le rééditer. Alors, je lance un appel ici à Joël. Martin Luther, on le sait, faut-il le répéter, Martin Luther, le grand réformateur allemand, avait pour cette épître une aversion si forte qu'il l'a appelée l'épître de paille. Je crois que nous pouvons avoir une certaine compréhension pour lui. Il faut remettre cette citation de Luther dans son contexte. Luther, au XVIe siècle, on le rappelle, était engagé dans un combat contre une église corrompue. Et Luther était chargé par Dieu de remettre en honneur la doctrine de la justification par la foi. Et le réformateur a cru que Jacques insistait sur les œuvres et ainsi contredisait l'enseignement de Paul, surtout sur l'épître aux Romains. Alors aujourd'hui, évidemment, nous ne sommes plus dans la même situation. Nous savons que sur la question de la foi et des œuvres, Jacques et Paul, bien loin de se contredire, se complètent. Et nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de cette épître de Jacques, comme nous avons aussi besoin de cette épître de Paul aux Romains. Alors, un mot peut-être sur le caractère littéraire. L'épître de Jacques est une épître qui n'est pas facile à classer. Tout est écrit dans une langue très, très fluide, particulièrement riche. Et le vocabulaire de Jacques n'a rien à envier à la pureté du style. En témoignent les nombreux apax qui y figurent. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, je crois l'avoir dit dans plusieurs de mes prédications, mais je le rappelle ici, un apax, H-A-P-A-X, pour ceux qui me prêtent des notes, un apax, c'est un mot ou un verbe qui se trouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament. C'est un mot ou un verbe qui se trouve qu'une seule fois. Et c'est intéressant de noter que sur 572 mots, il y a dans cette épître de Jacques 73 apax, dont 25 ne se trouvent même pas dans ce qu'on appelle la traduction de la Septante. Alors, la première question qu'on se pose ou qu'on est en droit de se poser, et qu'on se pose obligatoirement quand on fait une introduction à une épître, ce que je suis chargé de faire ce matin, c'est la question de l'auteur. Qui a écrit cette épître? Alors évidemment, il s'agit de Jacques, c'est clair, puisque ça porte son nom. Le problème est maintenant de savoir de quel Jacques s'agit-il. Le Nouveau Testament, en effet, en mentionne 3. 2 d'entre eux faisaient partie du collège des 12 apôtres. Alors là, je vous renvoie au chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, versets 2 et 3. S'agit-il de Jacques, fils de Zébédée, qui était le frère de Jean ? Alors lui fut mis à mort très très tôt, probablement en l'an 44 après Jésus-Christ, si ma lecture est bonne dans Acte 12 au verset 1. À cette époque, l'église de Jérusalem était très jeune, et nous pensons, quand je dis nous, c'est évidemment les biblistes, les théologiens, je ne m'inclus pas dedans, je n'ai pas cette prétention, voilà. Je suis fatigué, on a veillé très tard chez nos amis hier soir, là. Alors, je suis de personne, suivez mon regard, mais je cherche mes mots. Donc, on ne pense pas que ce soit ce Jacques-là qui ait écrit cet épître. Ensuite, il y a un autre Jacques, qui est Jacques, fils d'Alphée, qui est appelé très souvent dans le Nouveau Testament Jacques le Mineur. Alors, lui aussi, c'était l'un des douze. Alors, Jacques le Mineur est rarement, très très rarement mentionné dans le Nouveau Testament. Il est seulement mentionné dans la liste des noms des apôtres. Et très très honnêtement, nous ne pensons pas non plus qu'il s'agit de lui. Reste Jacques, qui est appelé par Paul le frère du Seigneur. Alors, je vous renvoie à Galates chapitre 1, verset 19. C'est intéressant de noter que dans l'épître aux Galates, Paul considère Jacques comme étant une colonne, pour reprendre le mot exact que dit Paul dans l'épître aux Galates, c'est une colonne dans l'église de Jérusalem. Matthieu, l'évangéliste Matthieu, le mentionne comme étant le frère du Seigneur dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. On sait que Jacques faisait partie de la famille terrestre de Jésus pendant son ministère. Alors, on dit que c'est le frère de Jésus, terme avec lequel je ne suis pas trop d'accord. Je dirais que c'était le demi-frère de Jésus, puisque Jacques est le fils de Joseph et de Marie, mais que Jésus est le fils de Marie, mais Joseph n'en est pas le père. Je ne vous apprends rien en vous disant cela, mais je pense que c'est important de le souligner. Alors, soulignons aussi qu'au début du ministère de Jésus, et c'est important, ce même Jacques ne croyait pas du tout en Jésus. Je vous renvoie dans l'évangile de Jean, ici, au chapitre 7, verset 5. Alors, pardonnez-moi, je ne prends pas le temps, malheureusement, de lire tous ces textes, parce que ça nous prendrait du temps. Et puis j'ai, comme vous le savez aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette introduction, et que je veux terminer à l'heure qui m'a été impartie. Donc, je vous laisse le soin de relire ces textes chez vous. Je sais que vous le ferez, je vous en remercie. Puis dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, au verset 7, Paul nous dit que Jésus est apparu à son demi-frère, qui était incrédule, et on sait que Jacques est devenu le chef de l'église de Jérusalem, au chapitre 15 du livre des Actes. Un mot sur la tradition. Alors la tradition, ça vaut ce que ça vaut, mais parfois c'est intéressant de s'intéresser à la tradition. La tradition nous apprend que Jacques, à la fin de sa vie, était si pieux qu'il avait les genoux tout calleux, parce qu'il priait à genoux, et il avait, paraît-il, la tradition nous apprend qu'il avait les genoux tout déformés à force d'être à genoux pour prier. Et toujours d'après la tradition, Jacques, ce même Jacques, a subi le martyre et sa mort a provoqué, on le sait, un soulèvement du peuple dans Jérusalem. Ça a été le début de la révolte qui va finir avec les Esséniens, les Zélotes à Massada, pour ceux qui ont suivi le périple en Israël que nous faisons. Vous connaissez, c'était en 70, la destruction du temple en 70, puis plus tard, la destruction de Masada avec l'armée romaine. C'est donc probablement lui, ce Jacques, demi-frère du Seigneur, qui a écrit cette épître que vous allez étudier. Alors, même si nous ne savons pas grand-chose de l'auteur, nous pouvons être sûr que c'était un homme qui était très, 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 très proche du Seigneur. Je dirais que l'Épître ressemble étrangement, je pense que vous le remarquerez très vite en étudiant cette lettre, cette Épître avec Manu, vous remarquerez que c'est une Épître qui ressemble étrangement au sermon de son demi-frère qu'on appelle le sermon sur la montagne dans Matthieu 5. On peut y trouver au minimum 22 passages qui sont parallèles. Jacques manifeste que ce que j'appellerais un air de famille qui le rapproche de son demi-frère. Alors, ceci étant dit, la deuxième question que l'on se pose toujours quand on fait une introduction sur une épître, après avoir vu l'auteur, c'est la date. Alors, c'est très difficile, là encore, de fixer une date sur cette épître, parce qu'il est impossible pour nous de déterminer la date exacte. Certains le situent aux environs de 50 après Jésus-Christ. Moi, je tendrais plutôt entre 35 et 48. En tout cas, avant 70, puisque Jacques ne parle pas de la destruction du temple de Jérusalem, rappelons, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il était une colonne, qu'il était l'évêque, qu'il était le pasteur de cette église, et donc il n'aurait pas hésité, il n'aurait pas oublié de mentionner cette catastrophe, ce malheur de la destruction du temple en l'an 70 par les armées romaines de Titus. Donc, avant 70, certains disent 50, 60, je pencherai plutôt pour 35-48 et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc nous avons ici une lettre qui est écrite par le conducteur de la toute première église chrétienne. C'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, c'est la première église chrétienne, celle de Jérusalem. Alors, je le mentionne parce que je discutais l'autre jour avec une brave dame qui me disait « Mais la première église chrétienne, c'est Rome. C'est pas Rome du tout. » Alors, c'est cette même brave dame qui, très étonnée, me regarde et me dit « Vous êtes sûr que Jésus n'était pas catholique ?» Non, il n'était pas du tout catholique. On vous expliquera pourquoi plus tard, c'est pas le sujet. Mais l'église, la toute première église chrétienne, c'est celle de Jérusalem, dont Jacques en est le ministre, le pasteur. Et donc, si cette date 35-48 était celle-ci, ce serait donc, et c'est intéressant de le noter, le premier en date de tous les livres du Nouveau Testament, qui est donc l'église de Jérusalem, le berceau du christianisme. Alors, John Bunyan, vous savez, qui le célèbre auteur du livre que tout le monde connaît, « Le voyage du pèlerin », John Bunyan disait « L'âme de la religion, c'est son côté pratique ». Alors nous avons affaire ici avec l'épître de Jacques à un côté qui est vraiment très, très pratique. Alors, je lis, comme vous, donc dans Jacques, au chapitre 1, « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut ». Alors c'est une salutation qui est habituelle en pareil cas. La manière dont Jacques se présente ici mérite quand même d'être notée, parce qu'il ne se prévaut pas de sa dignité d'évêque. de Jérusalem. Il ne dit pas Jacques, évêque de Jérusalem ou grand responsable de l'Église de Jérusalem. Il ne dit pas non plus sa position quand même de frère, demi-frère du Seigneur. Il s'intitule serviteur. Et le mot « serviteur » que vous avez ici, c'est exactement le même que dans toutes les épîtres pauliniennes. C'est le mot « doulos » en grec. « Doulos » qui signifie littéralement « esclave ». Esclave de Jésus-Christ. Jacques fait savoir à qui son épître est adressée. Il l'adresse aux 12 tribus dans la dispersion. Donc, il désigne la totalité de la nation juive qui n'habitait pas la Palestine, comme aujourd'hui d'ailleurs. Là, il y a plus de juifs en dehors d'Israël qui habitent en dehors d'Israël que de juifs qui habitent en Israël. C'était le cas aussi au premier siècle. Et on sait que la cause de cette dispersion remontait à la captivité assyro-babylonienne, où certains juifs ne sont pas revenus avec l'édit de Cyrus en 520, ils ne sont pas revenus après l'exil de 586, pas plus qu'après l'exil de 722, ils sont restés sur place, d'où cette diaspora de la nation juive. Et Jacques écrit à tous ces juifs qui sont dans la dispersion. Mais, et c'est important, ne commettons pas l'erreur de croire qu'il n'a rien à nous dire, Jacques, pour nous, chrétiens, aujourd'hui. C'est une épître qui est vraiment actuelle. Et je pense que vous le découvrirez en l'étudiant. Et donc, on en arrive au verset 2 jusqu'au verset 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Et ça, c'est une affirmation qui est étonnante, parce que l'épreuve, pour vous, comme pour moi, ce n'est pas une occasion de se réjouir que celui qui n'est pas d'accord avec moi me jette la première chaise. En principe, quand on subit une épreuve, on a, en tout cas pas moi, tendance à se réjouir. On a tendance plutôt à être attristé. On y voit plutôt une occasion, disons-le franchement, de geindre, de gémir ou de se plaindre. Mais, et c'est intéressant, c'est la question qu'on est en droit de se poser, pourquoi est-ce que nous n'arriverions pas à y trouver une occasion de nous réjouir ? Non pas de nous dire « Ah, j'ai été volé, on m'a cambriolé, j'ai plus rien, youpi champion !» C'est pas ça l'idée, hein. Mais c'est de nous reposer en Dieu, de nous remettre en lui et de nous dire que c'est arrivé et c'est pas en nous plaignant ou en gênant qu'on retrouvera nos choses. Alors, moi, je connaissais quelqu'un qui avait un don merveilleux. J'ai toujours désiré avoir ce don. J'ai jamais osé le demander au Seigneur. Et je l'ai jamais eu. Mais un jour, il s'est fait piquer son vélo. Et puis, je lui ai dit, c'est bête, ça. Tu vas faire comment pour aller bosser? Et il m'a répondu, oh, mais c'est super. Celui qui m'a volé le vélo en avait sans doute plus besoin que moi. Ah bon? Bon, ben, c'est bien. Hein? Donc, il y a des gens qui réagissent comme ça. Pourquoi pas? Ce qui est sûr, c'est que Dieu permet des épreuves dans nos vies, à chacun d'entre nous. Dieu permet des épreuves, et chaque épreuve permet à Dieu de se montrer, une fois de plus, comme un puissant libérateur. Et la pierre de touche d'une vie chrétienne victorieuse, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean Calvin, le grand réformateur français né à Noyon, c'est, disait-il, cette capacité de nous réjouir dans l'épreuve. Nous pouvons le faire. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous pouvons le faire ? Et pourquoi est-ce que nous devons le faire ? Ce que je vous le disais tout à l'heure, c'est le côté pratique de Jacques qui l'explique. Il dit, c'est facile, vous pouvez le faire, nous pouvons le faire. Pourquoi ? Parce que si l'épreuve provoque chez nous une paix, une joie, elle va produire la patience. Elle va produire l'endurance, dont le but... Et quoi ? Eh bien, le but, c'est de nous rendre parfaits, accomplis, En clair, nous devenons des chrétiens qui sont adultes. Et nous avons tous et toutes besoin de devenir des chrétiens, des chrétiennes qui soient adultes. Et combien il est triste, et je crois que Dieu est triste, de voir qu'il existe aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, ça existe, des chrétiens qui sont encore des enfants, malgré des années et des années de vie chrétienne. Hein, alors c'est un peu comme nos enfants. Dieu nous a confié des enfants. Nous, on en a eu 3 filles. Et je me souviens de la première, quand elle a commencé à marcher, c'était marrant, hein, parce que on l'a mis à l'autre bout de la pièce. Et puis moi, je me tenais à l'autre bout de la pièce. Et puis je lui dis, chérie, viens. Alors elle est venue comme ça, elle est tombée, elle s'est relevée, et puis elle est retombée. Et puis à un moment donné, elle est arrivée dans mes bras. Ok. Et puis plusieurs jours après, plusieurs quinzaines de jours après, on a refait le même système, on l'a mis au bout de la pièce. Et je me souviens, parce que toute la famille était réunie, je me suis tenu à l'autre bout de la pièce, j'ai dit « Chérie, viens !» Et puis, hop, elle est arrivée jusqu'à moi. Et là, tout le monde a applaudi. Et je trouvais ça formidable, parce que moi, je traverse la pièce tous les jours, personne ne m'applaudit. Mais là, on l'a applaudi. Allez savoir pourquoi. Ben, tout simplement parce que c'était la première fois qu'elle arrivait à marcher, à traverser la pièce. Mais c'est pareil dans la vie chrétienne. Il y a des chrétiens qui ne sont pas devenus adultes depuis tant d'années et tant d'années, et le Seigneur désire que nous devenions des chrétiens qui soient adultes. Et une des manières, dit Jacques, de devenir un chrétien mûr, un chrétien adulte, eh bien, c'est... Dans l'adversité, c'est de nous tourner vers Dieu, de rester calme et d'y trouver un sujet de reconnaissance. Parce que ça produit la patience et l'endurance. Et on le répète, le but, c'est de nous rendre parfaits, accomplis, donc un chrétien adulte. Alors, il existe, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il existe sans doute plusieurs personnes qui aujourd'hui manquent de sagesse, eh bien, il faut la demander à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes amusé un jour à compter les promesses dans la Bible. Qui s'est amusé à compter toutes les promesses dans la Bible ? Levez la main. Ben, on n'est pas nombreux, hein. Alors, peut-être c'est un scoop pour vous, peut-être que je vous l'apprends, mais enfin, vous le saurez maintenant. Il existe 3000 promesses dans la Bible. Il existe plus de 3000 promesses dans la Bible. Alors, il ne suffit pas de le savoir, il faut aussi mettre ses promesses à l'épreuve. Et ici, nous avons une promesse que nous invoquons souvent, c'est la sagesse. Nous avons tous et toutes, autant que nous sommes, besoin de sagesse. Nous nous trouvons constamment en face de décisions à prendre, et très souvent, avouons-le, ces décisions nous dépassent. Et c'est justement quand nous sommes conscients de notre insuffisance, que nous approchons de la solution, alors nous demandons à Dieu la sagesse, cette sagesse que nous n'avons pas. Seigneur, donne-moi la sagesse, conduis-moi, dirige-moi. Je veux être là où tu veux que je sois. Moi, je me souviens quand l'église d'Ozoir m'a fait la joie, l'honneur, de me proposer d'être leur pasteur, l'Union des Églises évangéliques libres, dont j'étais le pasteur, m'avait proposé en même temps 2 autres postes. Et ma grande question était de savoir où il fallait que j'aille. Alors si j'écoutais évidemment Ozoir, on m'avait dit Ozoir. Si j'écoutais Bordeaux, on me disait « mais c'est à Bordeaux ». Puis si j'écoutais Cannes, on me disait « ben c'est à Cannes ». Alors, comme je ne pouvais pas être le pasteur de 3 églises en même temps, il a fallu que je sache ce que le Seigneur voulait pour moi. Hein ? Et donc, j'ai demandé à Dieu de la sagesse, j'ai demandé à Dieu qu'il m'éclaire. Et puis, j'ai décidé de mettre en place un plan que j'avais dans la tête, et grâce à ce plan, j'ai su très vite que ma place était à Ozoir. Hein, mais je ne me suis pas assis sur une chaise ou un fauteuil en me disant bah, « Seigneur, c'est quoi ? Alors, c'est Ozoir, c'est Bordeaux, c'est Cannes, dis-moi, j'attends. » Là, on risque d'attendre longtemps. Et je crois que c'est important de demander à Dieu, mais aussi d'agir. Alors, nous demandons à Dieu cette sagesse parce qu'elle n'est pas évidente et parce qu'il faut l'avouer, nous ne l'avons pas, cette sagesse. Alors, je ferai une remarque qui me semble vraiment très importante. Admirez la façon dont Jacques nous parle de Dieu. Il donne simplement et sans reproche. C'est intéressant de noter que Dieu ne blâme pas les ignorants. Il ne blâme pas les ignorants qui sont conscients de leur ignorance. Alors remarquez que la promesse, elle est conditionnelle. Il faut demander avec foi. Si nous ne demandons pas avec foi, ça ne sert à rien. Elle est conditionnelle, cette promesse. De plus, il faut persévérer dans cette attitude. Et Jacques compare celui qui doute au flot agité de la mer. Alors, c'est le premier exemple de son habitude à Jacques d'utiliser des images empruntées à la nature. C'est un trait qui ressemble à son divin demi-frère. Et il ajoute un commentaire qui est sévère au verset 8. C'est un adjectif que nous traduisons par « irrésolu », qui signifie littéralement en grec « il est pourvu de deux âmes, une âme qui croit et une âme qui doute ». Un chrétien doit être quelqu'un qui croit de toute son âme, de tout son cœur, de toutes ses forces. Hein ? Et puis, je termine, parce que vous n'avez pas changé la pendule, elle est toujours en face, et je m'aperçois qu'il faut que j'aille un tout petit peu plus vite, donc je vais aller un tout petit peu plus vite en m'arrêtant sur ces versets qui, à moi, me semblent vraiment très, très intéressantes. Au verset 13, où il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », parce que Dieu ne peut être tenté par le mal. En étudiant la parole de Dieu, il faut se souvenir que le sens d'un mot dépend toujours de son contexte. Quand on étudie la Bible, c'est important de le savoir. Et le contexte que vous avez ici, c'est la tentation, « perasmos » en grec, qui littéralement veut dire « solliciter à faire quelque chose de mal ». C'est intéressant parce que Jacques nous dit plusieurs choses vraiment très très intéressantes que vous noterez, que vous étudierez. Mais la question qu'on se pose, c'est si la tentation ne vient pas de Dieu, alors d'où vient-elle ? D'où vient-elle ? Elle vient, nous dit Jacques, de nous-mêmes. Elle vient d'une convoitise qui est intérieure. C'est exactement ce qu'avait dit encore une fois le divin demi-frère de Jacques. Ce qui nous souille, c'est ce qui sort de la bouche, et non pas ce qui rentre, hein, dans Marc chapitre 16. Alors ne vous y trompez pas, juste rappeler que c'est ici un verbe qui est très 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 fort. Ça décrit un peu un bateau en dérive. Si on dérive de la voie du Christ, eh bien c'est exactement pareil que quand on est sur un bateau. Quand on dérive, on échoue. On échoue. On dit parfois que l'Évangile ne se trouve pas dans l'épître de Jacques. Eh bien, regardez tous ces versets et vous verrez que c'est très, 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 très clair. Par exemple, le verset 18, c'est quelque chose de merveilleux. Il va parler de la lenteur à parler, et puis là, je passe tout. Et puis, j'en arrive, et je termine, mais là, je termine vraiment, hein, rassurez-vous. Ça fait trois fois, je le dis, mais je suis vraiment embêté parce que j'ai plein, plein de choses à dire, mais je m'arrête. C'est le mot « religion ». Jacques est le seul qui emploie le mot « religion ». Alors ça, c'est intéressant, on va terminer avec ça. Le mot « religion » qui apparaît très, 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 très rarement dans les Écritures, il apparaît que quatre fois, hein, quatre fois seulement. Et chez Jacques. Et dans chaque cas, le mot religion que vous trouvez chez Jacques, il est associé aux œuvres, au ritualisme, au cérémonial. Mais le mot religion n'est jamais appliqué, pas une seule fois, à la foi. Ici, le terme grec, c'est le mot treskeia en grec. Treskeia, qui littéralement signifie pratique cérémoniale. Et ce qui est intéressant de noter, alors il y aurait plein de choses à dire, mais je fais court, treskeia est dérivé du verbe tresko, qui littéralement signifie se lamenter, avoir des problèmes. Si nous prenons la religion, le mot religion, au sens étymologique du texte biblique, la religion a été créée par les hommes pour se lamenter et se créer des problèmes. Alors ma question, elle est très simple. Est-ce que vous avez, vous, une religion ? Moi, j'en ai pas. Le christianisme, pour moi, n'est pas une religion et j'ai pas envie de me créer des problèmes et encore moins de me lamenter. Mais c'est littéralement ce que veut dire le mot « religion ». Et Jacques mentionne une autre religion, là on est sur un apax encore, qu'il qualifie de pure et sans tache. Et ce passage, c'est le seul endroit dans la Bible où il est parlé de religion dans le bon sens. Dans les autres passages, la religion est associée à un formalisme vide, à un simple cérémonial que l'on va inventer, que l'on va créer de toutes pièces, dans le but de se lamenter et de se créer des problèmes. Et je termine en disant que la ruse de l'ennemi de nos âmes, c'est de rendre les gens religieux, mais pas sauvés. De les amener à se satisfaire de leurs œuvres et de rejeter l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, je termine et je vous pose simplement cette question. Est-ce que votre religion vous suffit ? Êtes-vous satisfait de votre religion ? Vous donne-t-elle la paix ? Vous donne-t-elle la joie ? Je termine vraiment en disant, si vous aviez le Christ dans votre vie, il vous donnerait tout cela. Tout cela, sans s'occuper de vos propres mérites et de vos bonnes œuvres. Nous avons tous et toutes besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Et quand je dis Jésus-Christ, je répète encore une fois que ce n'est pas une religion, c'est une personne. Et Dieu, en Jésus-Christ, veut à tout prix cette relation entre lui et nous. Que le Seigneur nous conduise, qu'il nous dirige, et à lui soit toute la gloire. Amen. Nous terminons par la prière. Père, merci mille fois pour ta parole qui est la vérité. Merci parce qu'elle est tellement pratique. Merci parce qu'elle nous aide à comprendre, à avancer. Père, pardonne-nous notre lenteur à croire, à comprendre tout ce qui concerne ton royaume. Merci parce que tu nous as promis ton esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu es notre divin sauveur, notre divin maître. Et c'est toi et toi seul que nous voulons suivre. À toi soit toute la gloire en Jésus-Christ. Amen.